Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire des OGM, organismes génétiquement modifiés qui nous préoccupent tant. L'avancée scientifique OGM, portée par les firmes multinationales, est devenue en France et en Europe une question passionnelle, liant à la fois le milieu agricole, le monde politique, les consommateurs, à qui on ne demande pas toujours leur avis, et les lobbies financiers qui, eux, donnent le leur, et plus encore. Alors, plus de 20 ans après leur apparition, les OGM constituent-ils, oui ou non, un progrès risqué ? La précaution érigée en principe est-elle la bonne voie ? À qui profite vraiment cette avancée technologique du transgénique ? Et d'ailleurs, ce sera l'angle choisi pour cette rediffusion. Comment en effet aujourd'hui réagissent ou se défendent les firmes qui fabriquent et vendent des OGM comme Monsanto ? Eh bien vous le verrez, de fake news en publi-reportage, nous ne sommes pas loin de l'information génétiquement modifiée. Monsanto tisse sa toile, c'est le cas de le dire, lobby très puissant, enjeux financiers énormes, je ne veux pas employer les grands mots, mais il s'agit quand même d'une question de civilisation, un vrai défi pour l'avenir ou contre l'avenir. Notre invité aujourd'hui, Stéphane Foucard, journaliste au Monde. Il vient de publier avec Stéphane Aurel un article qui nous éclaire beaucoup sur la façon dont Monsanto mène sa guerre médiatique. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
La décision est prise, la France sera le premier pays de l'Union européenne à cultiver du maïs génétiquement modifié.
Le maïs transgénique avec, alors, à la fois...
C'est un sacré problème.
C'est un sacré problème.
Et moi, je suis assez réservé.
Mais nous avons considéré qu'un nombre très restreint d'espèces de plantes pouvaient d'ores et déjà être utilisées. C'est le cas, donc, de quelques espèces de maïs. D'une part, parce que leur dossier est prêt depuis longtemps et pas de risque pour la santé.
Mais...
On est en otage de politiques polluantes depuis des décennies. Il faut en changer. J'espère que la France pourra montrer l'exemple.
OGM, organisme génétiquement modifié. Voilà bientôt 20 ans que ce nom un peu barbare, cet acronyme scientifique, accompagne nos discussions de table et nos traversées de rayons dans les supermarchés. On scrute les étiquettes et on interroge nos primeurs sur leurs fruits, leurs légumes, d'où viennent-ils, comment sont-ils produits. On se rue dans les rayons bio, on privilégie les produits AOC, appellation d'origine contrôlée, ou AOP, appellation d'origine protégée. On espère retrouver aussi des produits IGP, indication géographique protégée. On s'arrache ceux qui sont estampillés label rouge. Il faut dire que le scandale sanitaire, un scandale sanitaire et alimentaire, eh bien manger est devenu à la fois une crainte et un savoir qu'il est bien compliqué de suivre. Tout semble de plus en plus protégé, inventorié, contrôlé, sans qu'on en soit vraiment certain. L'alimentation est une affaire sensible, brûlante, une préoccupation majeure dont l'information se fait l'écho. Pourtant, l'histoire des OGM débute comme un conte. Au début des années 90, un bruit court dans le milieu scientifique et agricole. Une solution magique aurait été trouvée dans les laboratoires américains. La solution qui a débouché sur la création d'une super plante qui résiste à des litres d'herbicides sans alterner sa croissance et sans mettre en danger l'homme et la nature, l'idéal. C'est alors une divine surprise dans le monde agricole en crise. Et la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Mais en Europe, les sujets autour du maïs transgénique apparaissent dans les colonnes de nos journaux dans un contexte particulier, il faut s'en souvenir. Nous sommes en 1996, la France notamment, sort de l'un des plus importants scandales alimentaires de son histoire, celui de la vache folle. On découvre alors sur nos écrans que nos chers bovins, servis dans nos cantines, cuisines et restaurants, sont nourris de cadavres en poudre, les fameuses farines animales. On s'alerte alors du manque de transparence et des approximations de la sécurité alimentaire. À partir de cette date, pour tout ce qui concerne l'alimentation, les gouvernements marchent sur des œufs. On parle de principes de précaution, de moratoire, on évoque des consensus, des nouvelles règles. Mais ces principes, sitôt annoncés, se cognent aux intérêts de nos pays partenaires, aux directives de l'Union européenne, aux pressions des Américains ou des lobbies des grandes multinationales. L'affaire des OGM n'est pas une histoire française, mais bien une affaire mondiale, globale. Et chaque année, on redistribue les cartes, on avance ses pions. Pour l'instant, ce sont les OGM qui, chaque jour, gagnent du terrain. En 2013, on estimait que 29 pays cultivaient plus de 160 millions d'hectares d'OGM, soit un tiers de la surface de la France. Trois sortes d'OGM sont cultivées en Europe, 194 aux États-Unis. Et pourtant, en 1997, au début de notre histoire, elles représentaient à peine 10 millions d'hectares dans le monde. Alors aujourd'hui, le principe de précaution est-il toujours de mise ? Avons-nous désormais assez de recul pour affirmer que les OGM présentent des risques sur la santé de l'homme et sur l'environnement en général, ou n'en présentent pas ? En France, la question des OGM s'est posée au milieu des années 90. Une entreprise pharmaceutique suisse, Novartis, une ancienne société chimique, propose avant tout le monde une nouvelle sorte de maïs, un maïs transgénique, le BT, résistant à la pyrale, cette chenille qui dévaste les champs en creusant un chemin dans les tiges. À son arrivée, le maïs BT reçoit un avis enthousiasmant des milieux scientifiques et des grandes structures agricoles françaises. Pourtant, le gouvernement d'Alain Juppé, alors aux affaires, hésite, tâtonne, brouille les pistes. Il faut dire que le traumatisme de la vache folle est encore dans toutes les têtes. En février 1997, le ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur, autorise la consommation humaine et animale de maïs transgénique. Puis, quelques jours après, l'alerte lancée par sa ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, il en interdit la culture. C'est la valse hésitation, on autorise sa consommation, mais on interdit toute forme de culture sur nos terres. À l'époque, en France, la culture de maïs couvre près de 3 millions d'hectares. Pourtant, les politiques bricolent et sont désarmées face à ces nouvelles problématiques. Face à eux, les multinationales porteuses de ces nouveaux produits magiques s'organisent et lancent de grandes campagnes de communication. Ainsi, en 1997, l'une d'elles, Monsanto, prône sur nos écrans de télévision un nouveau monde grâce aux avancées de la biotechnologie.
Nous voici à l'aube d'un nouveau millénaire. De nouvelles technologies vont nous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Nous pourrons protéger notre environnement grâce à de nouvelles récoltes qui nécessiteront moins de pesticides. Nourrir une population croissante grâce à des nouvelles technologies qui permettront de produire plus avec moins. Et bénéficier d'une alimentation plus équilibrée, contenant moins de matières grasses et plus de vitamines. Et tout ça est déjà en train d'arriver grâce à la biotechnologie. Biotechnologie, biotechnologie, pour améliorer nos vies.
Après la dissolution de l'Assemblée, une idée très originale de Jacques Chirac, la gauche dite plurielle n'a plus qu'à ramasser les fruits de la bévue politique du président. Et c'est donc aux mains du nouveau gouvernement de gauche que se retrouve le dossier OGM, la patate chaude. Alors on s'interroge, on consulte des scientifiques, on jauge les pour et les contre. Et le 27 novembre 1997, alors contre toute attente, le gouvernement de Lionel Jospin décide d'autoriser la culture du maïs BT, retoqué, rappelons-le, quelques semaines plus tôt, par la droite. Dominique Voynet, cofondatrice du Parti des Verts et nouvelle ministre de l'Environnement, s'explique devant les caméras sur ce choix surprenant.
Le gouvernement a débattu et les décisions ont été prises à l'unanimité. D'une part, nous savons qu'il existe dans le public, parmi les citoyens, une grande attente d'un débat très large. Ce grand débat citoyen donc, sera organisé au cours des prochains mois. Nous avons par ailleurs décidé d'un moratoire sur la commercialisation et la mise en culture de toutes ces plantes génétiquement modifiées, dans l'attente des résultats de ce débat citoyen, ce qui est bien normal. Mais nous avons considéré qu'un nombre très restreint d'espèces de plantes pouvaient d'ores et déjà être utilisées. C'est le cas donc de quelques espèces de maïs. D'une part parce que leur dossier est prêt depuis longtemps, mais d'autre part parce que nous sommes absolument certains qu'il n'existe pas de risque de dissémination de transgènes dans l'environnement et pas de risque pour la santé.
Le gouvernement français prend tout le monde de court. Dans les médias, les deux camps s'écharpent. Côté pour, on retrouve des personnalités comme Axel Kahn ou Bernard Kouchner, ministre de la Santé à l'époque, qui déclarent que les OGM ne sont pas la marque du diable, mais la marque du progrès. Les Verts, eux, ont des haut-le-cœur. Des élus écologistes se désolidarisent de leur ami et ministre Dominique Voynet. Au Parti Socialiste aussi, c'est l'étonnement. Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale, confie sur le plateau de Michel Field toute son inquiétude.
Il y a une position qui en France alors est intenable, c'est que on autorise l'importation de maïs transgénique, mais on ne peut pas le produire. Bon, alors ça, évidemment, ça ne peut pas durer longtemps. Il vient de l'étranger, essentiellement des États-Unis, mais on ne peut pas le produire. Donc le gouvernement a raison de mettre les choses sur la table et dire est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire maïs transgénique ? Ça veut dire qu'il y a un gène qui est chargé, comme on dit, d'un insecticide qui arrive à se débarrasser d'une chenille qui est très dangereuse pour le maïs et qui détruit 30% du maïs. Donc évidemment, avec ce nouveau maïs dit transgénique, où il y a une mutation d'un gène, il n'y aura plus de risque de subir les dégâts de cette chenille. Alors on dit c'est très bien, mais, le problème c'est qu'il faut étudier si le maïs transgénique, lorsque les animaux le mangent, ça n'a pas des conséquences sur les animaux. Et lorsque l'homme lui-même mange ces animaux. Ça rappelle des histoires qu'on a connues.
Bon. Évidemment.
Lionel Jospin et son gouvernement ont tranché, l'autorisation est donnée. Pour les opposants aux OGM, le loup est dans la bergerie, il faut agir. Au début de l'année 1998, à la Confédération paysanne, un bruit court. La société Novartis aurait rassemblé son stock de maïs transgénique dans un seul endroit de France, à Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Le 8 janvier, trois syndicalistes agricoles, éleveurs dans l'Aveyron et dans la Lozère, inconnus du grand public pour l'instant, René Rizel, Francis Roux et José Beauvais, pénètrent dans ce coffre-fort à OGM. Les trois hommes éventrent quelques sacs et mélangent du maïs ordinaire à du maïs transgénique, le rendant ainsi inutilisable. La gendarmerie débarque et arrête les trois hommes. Ils sont mis en garde à vue. Aussitôt, la presse est prévenue. Un rassemblement de la Confédération paysanne est organisé devant la gendarmerie sous l'objectif des caméras. La bataille médiatique contre les OGM débute là, devant la gendarmerie de la ville de Nérac.
C'est pas que le paysan qui est touché, c'est le consommateur. Et à travers les paysans et les consommateurs, c'est aussi les citoyens qui ont été complètement écartés du débat. Donc on demande un débat parlementaire au gouvernement et un moratoire actuellement, parce qu'il faut savoir que quand même les chercheurs sont très divisés sur ce problème.
C'est la première fois dans l'histoire que nous avons des gardes à vue. Nous allons donc nous constituer prisonniers pour soutenir nos camarades.
Ces trois personnes, ces trois figures représentent en fait 300 personnes qui ensemble ont mené cette action. Le 3 février 1998, les trois agriculteurs sont présentés devant le juge. Et le procès devient une tribune. Et les OGM sont à la barre. Des scientifiques comme le chercheur au CNRS Gilles-Éric Serralmi ou la présidente de l'association UFC Que Choisir décident de témoigner et demandent un moratoire sur la production des plantes génétiques. Les trois agriculteurs, eux, sont condamnés, 9 mois d'emprisonnement, dont 6 assortis d'un sursis pour René Rizel et José Beauvais, et 4 mois, dont 2 avec sursis pour Francis Roux. Mais c'est avec le sentiment du devoir accompli que les trois condamnés s'expriment devant les caméras.
Le ministre vient de dire à notre porte-parole que l'accord pour le maïs Novartis n'est qu'un accord momentané et qu'il pourra être remis en cause à tout moment.
Nous empêcherons par tous les moyens la libre circulation de cette semence, au champ comme dans les dépôts.
Pour nous, c'est une victoire, ça veut dire que l'action que nous avons menée est en train de porter ses fruits.
Et maintenant, la parole est un peu à la population, à la citoyenneté déjà.
Satisfait de ce premier coup et de ce retentissement qu'il a eu, la Confédération paysanne continue ses actions de sensibilisation et d'autres lui emboîtent le pas. Le 17 juin 1998, à la veille de l'ouverture de la conférence des citoyens sur les OGM, l'association Greenpeace lance une action dans les supermarchés. Des militants de l'ONG retirent des rayons, sous les yeux ébahis et interloqués des clients, l'ensemble des produits soupçonnés de contenir du maïs ou soja transgénique. Les caddies sont pleins. On découvre que près de 60% des produits d'usage courant vendus en supermarché, comme du chocolat, de la margarine, de l'huile de table, des biscuits apéritifs, contiennent des produits OGM. Pourtant, aucun étiquetage ne le stipule, comme le souligne un militant de Greenpeace.
qu'on demande au niveau du magasin, au niveau de la direction d'Auchan, que soient marqués bien précisément au niveau des consoles les produits qui contiennent des OGM par rapport aux produits qui n'en contiennent pas, de telle manière que le consommateur soit au courant.
Tout ce que je peux vous dire, c'est notre bonne volonté pour la transparence et qu'en ce qui concerne les produits Auchan, nous ne voulons pas d'OGM dans les produits Auchan. Maintenant, moi, je ne peux pas mettre à la place des fabricants. Et il y a aussi l'industrie derrière, il y a l'agriculture. Bon.
Avec cette action, Greenpeace change la donne et déplace le débat cloisonné pour l'heure au laboratoire des scientifiques et au couloir du Parlement européen. L'organisation écologique le place au centre de nos assiettes. Dès le lendemain, les quelques personnes invitées à débattre devant les caméras à la conférence citoyenne sur les OGM initiée par le gouvernement s'interrogent, s'inquiètent. Sommes-nous des cobayes consentants ?
Je ne sais pas si ça peut changer le cours des choses. Tout ce que j'espère, c'est que bon, on va donner un avis et j'espère que ça sera entendu. Voilà.
Aujourd'hui, on part sur un grand match. C'est pas la Coupe du Monde, mais l'Europe contre les États-Unis, à mon avis, il va falloir qu'on soit compétitif.
En fait, ce qui a pour moi d'important, c'est la santé avant tout, et le risque que les enjeux économiques, en fait, mangent un peu tout le reste.
Quelques semaines plus tard, à la suite d'une requête de Greenpeace, le Conseil d'État met un coup d'arrêt à l'autorisation accordée un an plus tôt au maïs BT de Novartis. Il suspend la culture et la commercialisation du maïs transgénique. C'est que les OGM sont devenus un dossier brûlant pour le gouvernement. Alors il recule. En juin 1999, la France de Lionel Jospin et de Jacques Chirac prône une suspension des nouvelles autorisations de mise sur le marché de lignées d'OGM. Le 21 octobre 1999, le Comité permanent des produits alimentaires de l'Union européenne décide de rendre obligatoire l'étiquetage des produits alimentaires contenant au moins 1% d'organismes génétiquement modifiés. C'est une première victoire. De l'autre côté de l'Atlantique, les OGM progressent et ne cessent de progresser. En l'an 2000, quelques 45 millions d'hectares sont plantés dans le monde. Les États-Unis en cultivent près de 68%. Les chiffres d'affaires annuels du marché mondial des semences s'élèvent alors à plus de 45 milliards d'euros.
Je vous parle d'un champ que certains paysans ne veulent pas connaître. Quelques bobos babas qui ne pensent ici-bas qu'à leur petit bien-être et pour payer le prix d'une meilleure vie, ils refusent l'évidence que de progrès perdus si ces belles semences sont brûlées dans la rue. L'OGM, l'OGM, on a beau dire mais y'a pas mieux. L'OGM, l'OGM, c'est l'assurance des jours heureux. Dès qu'on dit transgénique, ça y est, c'est la panique. L'écolo se ramène, refusant le destin d'un merveilleux festin. Ils me font de la peine, mais je sais que demain on percevra les gains de ces petites graines. On a tant investi pour acquérir ces gènes et breveter la vie. L'OGM, l'OGM, on a beau dire mais y'a pas mieux. L'OGM, l'OGM, nous muterons un jour sur deux. L'OGM, l'OGM, on a beau dire, mais y'a pas mieux. L'OGM, l'OGM, tant pis si je n'ai qu'un bras sur deux.
Après l'arrêt obtenu en 1999, le débat retourne dans les méandres des institutions européennes et françaises. Des rapports sont publiés, La France, devenue le porte-étendard du principe de précaution et du moratoire, fait face aux résistances du Parlement européen, dont elle doit suivre pourtant les orientations. Au niveau international, la pression américaine, premier producteur d'OGM, est de plus en plus forte. Depuis l'échec du traité commercial transatlantique NTM, qui devait instaurer une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, les relations sur le plan commercial sont de plus en plus tendues. En 2003, Washington décide même de porter plainte devant l'Organisation mondiale du commerce contre le moratoire européen. À la même époque, en France, la résistance contre les OGM s'intensifie. José Bové et ses compagnons multiplient les actions d'arrachage, puis de fauchage de cultures transgéniques. En juin 2003, sur le plateau du Larzac, haut lieu de résistance des années 70, fort en symbole, la Confédération paysanne lance le mouvement des faucheurs volontaires. Un an plus tard, le 25 juillet 2004, ils sont près d'un millier pour une action de grande ampleur à Mainville. Dans ses rangs, à côté du désormais médiatique José Bové, figurent des hommes politiques comme le député écologiste Noël Mamère.
Une très grande majorité de Français et d'Européens ne veulent pas d'OGM dans leur assiette. Et pendant que je vous parle, un gendarme vient de me prendre en photo. Je ne me mets pas hors la loi, c'est la loi qui elle-même se met hors de la société.
Aujourd'hui, c'est notre devoir de citoyen d'agir dans cette action de désobéissance civile. J'assume la totalité de l'acte que j'ai commis, c'est-à-dire du pied de maïs que j'ai arraché.
Publiquement, on est venu détruire la nourriture qui risque de nous tuer demain. Quoi.
Le schéma de Nérac se répète. Fauchage, médias, procès. Les OGM sont devenus un sujet incontournable des médias. À chaque action, les micros et les caméras sont présents. OGM comme organisme grandement médiatique. José Bové lui devient une vedette. Il parle bien, il a de l'allure. José Bové semble comme un poisson dans l'eau, dans le bain médiatique. Alors on s'arrache, se rebelle, cet Astérix moderne. Le matin à la radio, le soir à la télé, A Star is Born pour la cause. En novembre 2004, le procès du fauchage de Mainville fait sale comble. On vient assister au dernier numéro de José Bové de ses compagnons. La veille, il rappelle devant les militants l'enjeu de ce rendez-vous judiciaire.
Bonsoir. Écoutez, ça fait plaisir d'être là avec vous. Alors évidemment, nous, on est un peu frustrés parce qu'on va repartir juste après. Parce qu'il faut qu'on prépare le procès de demain. Donc là, on est au moins 4 déjà ici qui sont présents sur la scène, qui vont faire partie de ces 9 qui vont être devant le tribunal demain. Ça va être un procès, pas de ces 9 personnes, mais ça va être un procès de l'État français qui a laissé faire des OGM dans les champs. Ça va être un procès de la justice qui n'a pris que 9 personnes alors qu'il y avait plus de 1000 personnes qui ont fait cette action. Ça va être en fait un procès aussi de l'Union européenne qui refuse la démocratie et qui, malgré les votes majoritaires du Parlement, mettent en place des directives qui n'ont rien à voir avec ce que veulent les citoyens. Donc pour nous, demain, ça va être un procès offensif. Ça va pas du tout être, on ne va pas du tout être là pour se défendre, pour s'excuser devant la justice, mais au contraire pour attaquer. Et ce que je vais dire demain à la magistrate, à la présidente du tribunal, c'est qu'elle n'a que 2 solutions dans ce procès. Ou elle nous relaxe tous les 9, où elle nous met alors la peine maximum qui peut être de 5 ans. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est pour ça qu'on va continuer. Demain, ils vont dire la même chose. Donc pour nous, on sait qu'on risque la peine de prison pour ces actions, mais demain, on est prêt à recommencer, on sait qu'on sera encore plus nombreux. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 faucheurs qui se sont inscrits pour continuer les actions. Donc ces actions, on va les mener partout, on va les mener dans les champs, on va les mener dans les supermarchés pour virer les OGM des supermarchés. Et chacun doit agir, chacun ici pour construire un monde plus juste et plus solidaire sans OGM. Merci.
Toujours en novembre 2004, 9 faucheurs comparaissent devant le tribunal, dont le député européen écologiste et vice-président du Parlement européen, Gérard Onesta. Après un an de procédure et d'intervention médiatique autour du procès, la Cour d'appel de Toulouse condamne José Bové à 4 mois de prison ferme et 3 mois avec sursis pour les élus écologistes, dont Noël Mamère et Gérard Onesta. 100 000 euros de dommages et intérêts sont également réclamés aux condamnés. Et pendant ce temps, les grandes firmes poursuivent leur lobbying auprès des autorités européennes. C'est leur intérêt, bien sûr. mais ce ne sera pas sans dommage en termes d'image. En 2007, c'est l'OGM Mont-810 de l'entreprise américaine Monsanto qui se retrouve au cœur de la bataille des OGM. Jean-Louis Borloo, ministre de l'écologie, lance le Grenelle de l'environnement où le dossier épineux du transgénique est débattu. Le devoir de précaution a laissé place au droit de sauvegarde, c'est-à-dire le droit pour chaque pays de l'Union d'exclure du traitement communautaire certains produits. Lors du Grenelle de l'environnement, la haute autorité provisoire des OGM est créée. Sous la houlette du sénateur UMP Jean-François Legrand, elle effectue une étude sur le Mont-810, seul OGM autorisé en France. 10 ans après le coup de Nérac, le 7 février 2008, le gouvernement suspend l'autorisation de culture de la seule plante génétiquement modifiée autorisée en France, le fameux Mont-810. Une nouvelle loi relative aux OGM est promulguée en juin 2008. Au niveau mondial, l'expansion des OGM ne ralentit pas. Les surfaces cultivées atteignent 114 millions d'hectares. Plus de 12 millions d'agriculteurs cultivent désormais des OGM dans plus de 20 pays sur cette planète. En revanche, aucune étude sérieuse sur l'impact réel des OGM et de leur culture n'est lancée. En fait, une seule vérité est indiscutable. Les OGM rapportent beaucoup, beaucoup d'argent. En 2014, pour le seul deuxième trimestre, Monsanto, la star des firmes agrochimiques et numéro un mondial des OGM, a enregistré un bénéfice net de 1,670 milliards de dollars, une progression de plus de 12% en un an seulement. Une grande partie de ces bénéfices proviennent de la vente de la star des herbicides Roundup. L'avantage des OGM de Monsanto, c'est qu'ils résistent à Roundup, l'herbicide de Monsanto. Les OGM se vendent toujours en pack, semences génétiquement modifiées et résistantes à l'herbicide vendu par la même société. Un deux en un, en quelque sorte, pratique et super rentable.
Si comme Rex, vous détestez les mauvaises herbes dans votre jardin, voici Roundup, le désherbant 100% biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et il ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Roundup, désherbé intelligent.
Aucun problème donc, cet herbicide est magique. Il ne pollue ni la terre, ni l'homme, c'est du moins ainsi qu'il est présenté en 1999. Pourtant, en septembre 2012, une étude menée par le chercheur français Gilles-Éric Cerlini jette un froid sur le monde et sur les OGM. L'étude est accompagnée de photos de rats déformés par de gigantesques tumeurs. Ces photos font le tour du monde en quelques instants grâce aux réseaux sociaux et sèment un peu plus le trouble dans l'opinion. Dans cette étude, le chercheur français suggère que des rats nourris avec du maïs NK603, un OGM tolérant l'herbicide Roundup de Monsanto, développent des pathologies et des tumeurs importantes. L'opinion est sous le choc. Le débat sur les OGM réapparaît de nouveau dans nos médias. Devant les caméras, le professeur Cerlini, accompagné par son ami et eurodéputé Corinne Lepage, lance l'alerte.
Ces résultats de tests sur un maïs tolérant au Roundup, un maïs sans Roundup et le Roundup, nous montrent une progression incroyable des tumeurs, une mortalité, une surmortalité dans les groupes traités et des pathologies rénales et hépatiques chez les mâles qui sont extrêmement graves, des perturbations biochimiques rénales chez les femelles. Les conséquences peuvent être celles d'une intoxication chronique à long terme qui effectivement met en jeu le foie et les reins et des cancers du sein si ces phénomènes hormonaux dépendants se confirment chez l'homme.
On est dans un système d'irresponsabilité organisée où les firmes qui fabriquent les OGM ont obtenu que les études sur la santé ne soient pas faites, c'est-à-dire sur des rats, ne soient pas obligatoires et le soient sur des durées très courtes, 90 jours. Or, l'étude menée par le professeur Cerlini montre qu'on ne voit rien sur le plan clinique à 90 jours. Je pense qu'on est en face de tous les éléments d'un scandale sanitaire. Donc, moi, ce que je demande aujourd'hui, en tant que députée européenne, c'est que tous les OGM consommés en Europe fassent l'objet d'études sur 2 ans, comme nous l'avons fait, et que d'ici là, des mesures de précaution soient prises à l'égard des consommateurs européens.
Le chercheur est alors attaqué de toutes parts. Protocole inadéquat, puissance statistique trop faible. Le débat s'ouvre au sein du milieu scientifique entre les pro-Cerlini et les contre. Cette controverse d'experts, à laquelle on ne comprend rien, a au moins l'avantage de cibler l'absence d'informations scientifiques et surtout neutres sur les OGM et son nombre, le désherbant Roundup. En 2013, seules 3 études de vie entière auraient été menées sur des rats. Mais chacune propose des résultats contradictoires, minimisant ou non l'impact des OGM sur la nature et la santé de ses rats cobayes. Aujourd'hui, aucune étude sur la santé du bétail nourri aux OGM n'a été lancée. Alors, est-il impossible d'obtenir des données neutres et complètes sur l'impact des OGM? Sommes-nous toujours des cobayes? Depuis 20 ans, le dossier des OGM est comme un serpent de mer qui apparaît et disparaît selon les actualités, les modifications des règles nationales, européennes et internationales dans le domaine du commerce, de l'agriculture ou de la science. L'Europe est au centre de cette bataille menée depuis près de 20 ans. L'objectif des grandes firmes multinationales telles que Monsanto, à des puissances nationales qui les soutiennent, notamment les États-Unis, c'est d'obtenir une autorisation des OGM sur l'ensemble de la planète. Encore une fois, l'Europe n'arrive pas à proposer une politique commune. Au sujet des OGM, l'Espagne et le Portugal produisent du Mont 810 de Monsanto, contrairement à la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne ou la Grèce. Face à ces choix divergents, les ministres de l'Environnement, dont Ségolène Royal, ont lancé la réforme du processus d'autorisation des OGM en Europe, ce qui devrait mettre fin à la bataille politique et juridique, peut-être. Les différents ministres de l'Environnement prônent une législation à la carte, laissant le droit à chacun d'interdire ou non la culture des OGM sur leur territoire. La balle est désormais entre les mains des parlementaires européens qui devront légiférer sur ce nouveau cadre européen. Presque 20 ans après, la nouvelle aide proposée par les multinationales agrochimiques est-elle aux portes de l'Europe? En Amérique latine, au Brésil ou en Argentine, qui sont devenus les deuxième et troisième pays producteurs d'OGM, quelles sont les conséquences sanitaires dans ces pays? La suite, ce sera avec notre invité.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours. 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimentés avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Le poulet numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi.
Sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les OGM, notre invité Stéphane Fougard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, en charge des sciences et de l'environnement. Vous avez fait paraître de nombreux articles et des enquêtes sur ce sujet, notamment sur les pratiques agressives du géant de l'agrochimie Monsanto et le poids des lobbies, et notamment un article intitulé « Comment Monsanto mène sa guerre médiatique ». Là, c'est l'angle qu'on va choisir avec vous et on fera une explication de texte de ce grand article. J'en profite pour vous dire que le détournement de la bohème d'Aznavour que vous avez entendu tout à l'heure, on le doit à chanson plus bifluorée. Ouais, ça s'appelle l'OGM. Vous vouliez le savoir? Eh bien, je vous le dis. Alors, je précise à nos auditeurs, et je le redis d'ailleurs, qu'une fois par semaine, nous proposons une rediffusion parce que nous estimons qu'il faut, comme on dit, ressortir une histoire quand l'actualité est là, et nous invitons donc un nouvel invité pour un nouveau regard, et vous êtes dans ce cadre, Stéphane Fougard. Bien, avant de nous plonger dans ces techniques agressives du lobbying de Monsanto et comprendre comment la firme communique en faisant passer des contenus qui lui sont favorables sur Internet. Nous allons écouter ce que Marie-Monique Robin, journaliste, auteure de nombreux films et livres sur la question de l'alimentation, dont Le Monde, selon Monsanto. Bien voilà ce qu'elle nous disait dans la précédente diffusion, c'était en mai 2016. Elle nous expliquait les raisons qui l'avaient poussée à s'intéresser à cette histoire, à cette multinationale, à Monsanto donc, car pour s'attaquer à la firme, il fallait être très très motivé. Hein. Nous sommes presque dans une fiction, mais le pouvoir de Monsanto est bien réel.
Je suis née sur une ferme du Poitou qui pratiquait l'agriculture industrielle. Donc pendant très longtemps, je ne me suis pas posé de questions sur ce modèle, parce que mon père faisait ça, il pensait que c'était la meilleure manière de nourrir le monde. C'est pour ça que je dis souvent d'ailleurs qu'il ne faut pas jeter la pierre à ces paysans qui sont retrouvés embarqués dans cette aventure complètement folle. C'est ce que je dis aujourd'hui, mon père le dirait aussi, même s'il est très âgé. Alors, Monsanto, c'est venu tout petit à petit. Alors, bien sûr, j'avais entendu parler de l'agent orange, vous savez, qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam, qui était un cocktail de deux herbicides très toxiques. Et puis, en 2005, j'ai fait deux films pour Arte qui concernaient les semences. Et j'ai découvert qu'il y avait des brevets sur les semences, un truc qui me paraissait incroyable. Comment peut-on breveter une semence, vous voyez? Et que derrière, il y avait toujours une compagnie. Quand j'étais en Inde, on m'en parlait. Quand j'étais aux États-Unis, on m'en parlait. Quand j'étais au Canada, on m'en parlait. Monsanto. Et j'ai tapé Monsanto. Et là, j'ai découvert un truc incroyable. Il y avait tout sur la toile. Il suffisait de télécharger, recouper. Et puis, je suis allée voir Arte. J'ai dit, voilà, il faut faire un film. Et c'était Le Monde sur le Monsanto.
Voilà Stéphane Foucard, l'histoire d'un livre, l'histoire d'une enquête. Et quelle est maintenant l'histoire de cette entreprise finalement? Comment est-elle devenue le leader mondial des OGM?
Elle l'est devenue après avoir abandonné son activité historique qui était la chimie, qui lui a valu pas mal de casseroles, hein, comme on dit, pas mal de scandales, et en particulier celui des PCB, hein, que d'ailleurs Marie-Monique Robin traite dans son livre Le Monde selon Monsanto. Je crois que c'est le premier chapitre. D'ailleurs, elle raconte l'histoire de cette petite ville d'Alabama, Anniston, qui a servi un petit peu de décharge au fond de cuve des usines de Monsanto, qui fabriquaient dans cette petite ville du sud des États-Unis ces produits qui sont très toxiques, qui sont aujourd'hui considérés comme des perturbateurs endocriniens. Et donc, Monsanto, finalement, a quitté cette activité historique pour s'orienter vers l'agriculture, avec le développement, justement, de ce couple OGM Roundup.
Bon, bonne pioche, en tout cas, d'un point de vue économique. Hein, pour le reste, c'est autre chose. Parce qu'il y a aussi le débat philosophique. Je disais tout à l'heure que c'était une question de civilisation. Finalement, qu'est-ce qu'on nous fait manger, hein? C'est au-delà de l'économique et du politique. C'est philosophique, moral. Et puis les conséquences sociales aussi, environnementales bien sûr, et sanitaires de l'exploitation de ces OGM. C'est quoi la conséquence d'une agriculture avec des OGM? C'est porteur de quel danger précisément? Puisque pour l'instant, on est dans le principe de précaution, puisqu'on n'a pas encore la preuve que ce soit nocif, bien qu'on l'ait un petit peu quand même.
Alors, moi je dirais que le problème est relativement mal posé, puisque, on le voit d'ailleurs dans ce reportage, en fait, toute la question, historiquement, a tourné autour du danger sanitaire ou pas pour le consommateur final, de la transgénèse, c'est-à-dire le fait d'intégrer un transgène, un gène étranger, à une culture. Or, en réalité, moi, il me semble qu'avec le recul du temps, on peut dire que c'était un faux débat, en fait.
Pourquoi? Cette histoire. C'est intéressant.
Parce qu'aujourd'hui, on a toujours aucune preuve. Aucune.
C'est ça, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. On n'a aucune preuve de la nocivité de cette opération qui consiste à ajouter une construction génétique, vouée à produire une toxine insecticide, le fameux BT, ou qu'elle soit vouée à conférer à la plante une résistance à un herbicide, typiquement le Roundup, mais aujourd'hui il y en a d'autres. Donc en fait, on voit aujourd'hui qu'on s'est embarqué dans une sorte de faux débat. C'était pas de ça qu'il fallait débattre en réalité.
Il fallait débattre de quoi? C'était quoi la question qu'il fallait poser?
La question qu'il fallait poser, mais c'est une question qui est beaucoup plus compliquée et qui est beaucoup moins soluble en fait dans la conversation publique et dans le débat public, hein, dans la manière dont nous autres, les médias, on se saisit de ces questions complexes. La question qu'il fallait poser, c'était tout simplement de savoir qu'est-ce qu'on veut comme agriculture, parce que l'intérêt des OGM, avant tout, c'est pas d'augmenter forcément les rendements, c'est pas de nourrir le monde. D'ailleurs, quand on regarde aux États-Unis les courbes de rendement du maïs, par exemple, eh bien en 96, quand on a commencé à faire du maïs OGM,
transgénique,
on ne voit pas d'augmentation des rendements. Les rendements, ils continuent à augmenter linéairement.
C'est pas indexé à ça, en tout cas.
Voilà, exactement. Et on voit pas de signal particulier. Pas vraisemblablement d'augmentation des rendements avec ces technologies. Ces technologies, elles servent surtout à industrialiser l'agriculture, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on puisse agrandir les parcelles, agrandir les exploitations et faire plus avec moins de main-d'œuvre, de main-d'œuvre de manière plus automatisée, avec un rendement économique supérieur.
C'est pour ça que vous vous posez la question, quelle agriculture on veut ? Est-ce qu'on veut de cette agriculture-là ou d'une agriculture par des circuits courts, par tout ce qui est le contraire de ça.
Exactement. On se rend compte aussi que sur l'environnement, il y a un effet de l'industrialisation de l'agriculture. Plus vous faites des grandes parcelles, plus vous détruisez de l'habitat, plus vous utilisez de grandes quantités d'herbicides, c'est quelque chose qui est très consensuel maintenant dans la communauté scientifique, plus vous détruisez la flore adventice qui sert de nourriture à tout un tas de pollinisateurs, aux abeilles, etc. Donc, il y a des conséquences environnementales qui sont importantes. Il y a des conséquences socio-économiques qui sont importantes en termes d'occupation du territoire, en termes d'emploi, de structure de l'emploi. Donc il y a des questions très profondes, et il y a aussi des questions philosophiques, hein, vous l'avez dit, sur la brevetabilité du vivant. Est-ce qu'on peut s'arroger un titre de propriété aussi fort qu'un brevet sur une semence ? Est-ce qu'on peut contrôler la diversité génétique des cultures qui servent à nourrir l'humanité ? Tout ça, ce sont des questions qui sont très profondes, mais qui ne sont pas des questions sanitaires.
Alors, il y a des questions phytosanitaires. Maintenant, puisqu'on a trouvé ce mot très politiquement correct, finalement, qui adoucit tout, phytosanitaire, c'est gentil, sanitaire. On prend soin de nos plantes, enfin bon, on a compris. Dans le phytosanitaire, il y a du glyphosate, par exemple, c'est la molécule du Roundup, et qui est toujours autorisée au sein de l'Union Européenne et en France. L'interdiction est programmée dans 3 ans. Il y a urgence ou il n'y a pas urgence, ou on peut attendre 3 ans ?
Alors, c'est la même chose que pour les OGM. C'est une question qui est très complexe. Pourquoi ? Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce sujet, c'est qu'en réalité, on finit par reparler de la même chose, c'est-à-dire du risque sanitaire, mais pour d'autres raisons.
C'est-à-dire pour d'autres raisons, bien sûr.
Là, c'est plus la construction génétique qui fait peur, c'est le produit auquel sont associés ces OGM, produit qui est utilisé même...
Associer les pesticides.
Et typiquement le Roundup, puisque c'est de ça qu'on parle. Et Roundup qui est également utilisé, y compris en grande quantité, dans les pays où on ne fait pas d'OGM. En France, on utilise de mémoire entre 8 et 10 000 tonnes par an de glyphosate, donc le principe actif du Roundup, sans qu'on fasse d'OGM, à ma connaissance. Donc, il y a à la fois une poursuite de la conversation autour des OGM via la toxicité du glyphosate, ou la toxicité alléguée du glyphosate, et cette question toute simple, est-ce qu'on doit continuer à utiliser du Roundup en France, alors qu'il a été classé, je le rappelle, en mars 2015, comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer.
Alors, si on veut ni pesticides, ni OGM, et qu'on ruine Monsanto, ça porte un nom, ça, ni pesticides, ni OGM, ça s'appelle l'agriculture bio. C'est la définition du bio. Ni OGM, ni pesticides.
Alors, pas tout à fait, parce que le bio utilise aussi des pesticides.
Oui, mais des pesticides
différents. Ce ne sont pas des pesticides de synthèse, mais ce sont quand même des pesticides. Donc effectivement, on a une grande alternative aujourd'hui. D'ailleurs, le marché du bio augmente très rapidement en France et un peu partout dans le monde, et surtout en Europe. Donc effectivement, c'est vraiment l'alternative qui se pose à nous.
Puisque je ne vais pas vous poser une colle avec des chiffres, mais puisqu'on en parle du développement du bio en Europe, qui sont les pays champions ?
Alors l'Autriche fait beaucoup de bio.
Je crois que c'est arrivé à 16% des terres cultivées.
Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est 16, sans doute de cet ordre-là. Voilà, on est sous 10% en France, hein, beaucoup, largement en dessous de 10%, oui, autour de 4-5%.
Italiens étaient à 8 déjà, il y a quelques années.
En Espagne, ça commence à monter très fort, surtout pour le vin. Ouais. Donc oui, il commence à y avoir un marché important qui se développe.
Alors, depuis des années, des mouvements de lutte en France et dans le monde entier se constituent contre ces sociétés et ces pratiques, genre Monsanto, et lancent des procédures judiciaires. On va écouter cet extrait d'un reportage de France Info après la victoire de Paul François. C'est un agriculteur de Charente qui est parvenu à condamner Monsanto en appel pour une intoxication subie en 2004 et dont il nous donne plus de détails.
Ma vie, c'est déjà une épée de Damoclès en permanence au-dessus de ma tête, parce que j'ai des check-ups complets qui montrent que j'ai des lésions au niveau du cerveau qui sont présentes, qui évoluent de façon très très doucement, mais on ne sait pas vers quoi ça évoluera. Les neurologues, bon voilà, ça, c'est une chose. Et puis, il y a des périodes où je ne peux pas travailler, je suis obligé de rester allongé des fois pendant plusieurs jours parce que les douleurs au niveau de la tête sont insupportables et qu'il faut des dérivés de morphine pour arriver à les calmer. Et donc ma vie de professionnel n'est plus du tout la même qu'avant 2004. Et puis des périodes de fatigue énormes. Alors je suis souvent discret par rapport à ça parce que les gens qui me connaissent, ils me disent mais quand on te voit certains jours, on ne peut pas imaginer que tu es malade. Il n'y a que mes proches ou les médecins qui savent très bien que malheureusement, ce n'est pas tout à fait la réalité. Et de toute manière, ma vie a été bouleversée après cette intoxication. Il n'y a pas de raison qu'une firme soit au-dessus des lois. Et si elle était responsable et si elle avait retiré d'elle-même, parce que je ne peux pas imaginer une seconde que cette firme n'était pas au courant de la toxicité du produit en 2004, ne serait-ce tout simplement en étant très pragmatique que le Canada l'avait interdit dès le milieu des années 80.
Voilà, alors aujourd'hui, Paul François mène toujours son combat et sa bataille judiciaire contre Monsanto. Son 4e procès s'est tenu hier. La décision de la justice sera rendue en avril prochain. Après sa plainte déposée en 2007, l'agriculteur est parvenu à faire condamner Monsanto à 2 reprises, en 2012 et 2015. Alors à chaque fois, le géant des OGM a fait appel, bien sûr. En 2017, la Cour de cassation a décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon pour une erreur de forme, d'où ce nouveau procès d'hier, au cours duquel les avocats de Monsanto, une nouvelle fois, rejetaient toute responsabilité. Voilà, chaque fois, Monsanto nie. Vous-même, dans votre article paru dans Le Monde, daté du 1er février, vous donnez des pistes de compréhension, vous parlez de l'agressivité de Monsanto, qui ne lâche jamais rien, qui a bien sûr les moyens de se payer de nombreux avocats. On va y revenir sur le lâcher rien. Comment arriver à gagner face à ce pouvoir qui semble inatteignable?
Je pense que la question elle se pose plus aux avocats de ouais. Paul François qu'à moi. Mais je voudrais juste rappeler quelque chose qui est intéressant et qui est assez contre-intuitif. C'est que Paul François a été intoxiqué par le Lasso, qui est un herbicide qui a aujourd'hui donc été retiré du marché. Et cette histoire doit nous rappeler quand même que le Roundup, qui est un autre, ou le glyphosate, hein, selon qu'on lui donne son nom de molécule ou son nom de produit formulé, ou l'un de ses noms de produits formulés, le Roundup aujourd'hui est l'herbicide le plus sûr qu'on connaisse. Et c'est aussi quelque chose qui est très étrange et contre-intuitif, puisqu'on parle beaucoup du glyphosate, alors qu'aujourd'hui, je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant que la plupart des toxicologues considèrent que le profit toxicologique du Roundup est plutôt meilleur que celui des autres herbicides actuellement sur le marché, et a fortiori de ceux qui en ont été retirés. Et donc là, on arrive à une situation qui est extrêmement dangereuse, non seulement pour Monsanto, mais pour le reste du monde agrochimique, qui est que même les molécules qui étaient historiquement considérées comme les plus sûres, hein, puisqu'on n'a jamais, pas jusqu'à il y a quelques années, le Roundup, bon, on n'en parlait pas plus que ça. Hein. Il a vraiment fallu attendre le classement du Centre international de recherche sur le cancer pour que ça commence à pénétrer la conversation publique et à faire débat. Mais même si ces molécules qui sont considérées comme les plus sûres, finalement, après examen, présentent des risques, qui reste à quantifier, etc., hein, eh bien, ça pose une question de survie pour l'agrochimie et pour l'agriculture industrielle telle qu'elle existe aujourd'hui.
Alors, la façon dont Monsanto va tisser sa toile, hein, c'est le cas de le dire, notamment sur Internet, pour fabriquer une information qui lui est favorable. Donc elle passe par des agences de relations publiques qui promettent aux clients la mise à disposition des capacités de storytelling, hein, de Monsanto, histoire de raconter une belle histoire, et de dire que les histoires que nous on raconte sur la place publique, c'est pas vrai. Bref, l'accès à un réseau de producteurs de contenu fidélisé permettant de décliner l'histoire dans tous les formats et sur n'importe quel canal, post, Twitter, Facebook ou Instagram, article de blog, que sais-je encore. Cette agence donc confirme toutefois qu'un volet, le Let Nothing Go, est destiné à faire rectifier les informations inexactes ou imprécises. Alors c'est quoi ce Let Nothing Go? On ne laisse rien passer, c'est la stratégie?
Oui, alors, apparemment c'est une des stratégies de Monsanto, qui en a beaucoup. C'est quelque chose dont le nom Let Nothing Go, qui apparaît pour la première fois en 2017, si ma mémoire est bonne, dans un mémo que transmettent des avocats de plaignants aux États-Unis aux juges. Et ils disent avoir interrogé un haut cadre de la société qui leur a confié l'existence, sous serment, hein, aux États-Unis, quand des avocats font déposer quelqu'un de la partie adverse, la personne s'exprime et répond aux questions sous serment. Et donc sous serment, ce cadre de Monsanto leur a révélé l'existence de ce projet, programme, Let Nothing Go, ne rien laisser passer. Hein, donc, faire comme ça une sorte de stratégie d'endiguement sur Internet. Mmh. Bon, sans donner plus de détails sur le projet. Et apparemment, d'ailleurs, le cadre lui-même n'avait pas plus d'explications à donner aux avocats sur la réalité, sur l'étendue de ce programme. Alors, bon, nous on a cherché un petit peu avec ma collègue et co-autrice Stéphane Aurel, et on a déterminé que on a réussi à trouver le nom de la boîte de l'entreprise de relations publiques et de lobbying qui opère ce programme. Et il s'agit de Flash Manilard, qui est une des plus grandes sociétés de relations publiques et qui opère ce programme spécifiquement en France et en Europe.
Et alors elle dit cette agence, elle dit ne travailler qu'avec des journalistes mainstream traditionnels. Bah, vous et moi, quand même. Mainstream, voilà. Mais prise de contact fructueuse dans seulement un tiers des cas, selon la société qui assure. Alors, en plus, ne pas rémunérer les journalistes reprenant les rectificatifs, heureusement. Flash Manilard ne souhaite communiquer ni l'identité des intéressés, ni la nature précise des éléments transmis. Bah oui, donc tu parles.
Oui, alors on a très peu de détails, bien évidemment, sur la nature de ces relations entre cette société de relations publiques et ces journalistes. On ne sait pas exactement dans quel cadre, dans quelle mesure, est-ce que ces éléments de langage ont été repris, diffusés, sous quelle forme, par qui, etc. Donc ça reste quand même assez nébuleux. Mais on dispose, malgré tout, dans ce qu'on appelait les Monsanto Papers, donc les documents internes de la firme, on dispose de mémos où, par exemple, on voit des responsables de Flash Manilard interagir avec des cadres de Monsanto, et par exemple transmettre des pages et des pages de monitoring et de surveillance et d'évaluation de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, tout ça est rédacté par le juge, c'est-à-dire c'est censuré. Le juge a estimé, avant de rendre public ces documents, qu'un certain nombre de choses qui pouvaient apparaître pouvaient porter préjudice soit à Monsanto lui-même, soit à des tiers qui apparaissent dans ces documents. Donc tout est rédacté, mais on a une vingtaine de pages, comme ça, qui sont noircies, où apparemment l'activité de ce qui se passe sur Twitter, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, voire sur les forums qu'il y a au derrière des articles de presse maintenant sur Internet, bien tout ça est surveillé, tout ça est évalué, on peut lire dans la bouche d'un responsable de Monsanto qu'il se réjouit du fait que la situation s'améliore quelques mois après la mise en place de ce programme grâce à des contenus activement placés, je cite, par la firme Flash Manilard.
Alors, est-ce que cette campagne est toujours d'actualité? L'agence parisienne de la firme de lobbying affirme qu'elle n'a pas œuvré pour Monsanto depuis plusieurs mois. Pour autant, stupéfaite par la levée de boucliers suscitée par la diffusion le 17 janvier dernier sur France 2 d'une édition du magazine Envoyé spécial consacré au glyphosate, Elsa Margou, la directrice des magazines de l'information de France Télé, est convaincue que l'émission était la cible d'une campagne de dénigrement. Et elle ajoute, ce qui s'est produit a atteint des proportions très inhabituelles. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous l'évoquez dans votre article ?
Oui, alors c'est ce que dit effectivement Elsa Margou, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître effectivement, avant même la diffusion de ce sujet, de ce magazine Envoyé spécial, on a vu apparaître tout un tas d'éléments de langage sur les réseaux sociaux, diffusés, amplifiés, pour saper complètement toute crédibilité au sujet avant même qu'il ne passe à l'antenne. Et ouais, pendant qu'il passait à l'antenne, il y avait tout un tas de suivis en direct de comptes Twitter qui dénigraient de manière extrêmement véhémente ce qui pouvait être donné à voir aux téléspectateurs. Il y a certainement des critiques à faire, il y a certainement des inexactitudes. Enfin, on est journaliste, on est bien placé pour savoir que chaque sujet, il est anglais, il a ses points aveugles, il a ses partis pris. C'est comme ça. Mais un tel tir de barrage, apparemment, a totalement stupéfait les responsables de France Télévisions.
Alors, ces questions sont évidemment politiques, jusqu'à preuve du contraire. C'est quand même les politiques qui ont la décision finale, normalement, sur la sphère économique. Je rêve, mais bon. Je vous propose d'écouter un extrait en 2011 d'un spot de Manuel Valls lors de la primaire socialiste où il présente les OGM comme source de progrès.
15 ans après l'irruption du débat en France, les OGM suscitent toujours les réactions passionnées des pros et des anti. Au cours du XXe siècle, les catastrophes générées par le scientisme ont abîmé, on peut le comprendre, notre foi dans le progrès. Mais nous ne pouvons pas renoncer à son idée même. Nos civilisations, nos sociétés ont besoin de progresser. Si les dangers supposés des OGM sont sérieux, ils attendent toujours d'être démontrés. En revanche, les bénéfices espérés sont, eux, largement reconnus. plutôt que d'interdire les OGM, de tourner le dos au progrès. Je suis donc favorable au renforcement de la recherche dans le domaine des biotechnologies.
Ah, qu'on soit favorable ou pas, c'est la question de la décision politique.
Oui, alors,
c'est important.
C'est tout à fait important, et je pense que la décision politique, elle doit se baser non pas sur la technique, c'est-à-dire non pas sur le fait que c'est un OGM ou pas,
ouais,
mais sur ce qu'on va faire à cet OGM, parce que c'est ça qui est intéressant finalement. C'est le trait qu'on va ajouter à cette plante, et il n'est pas du tout exclu qu'un trait, une construction génétique, un transgène introduit dans des cultures, voilà, permettent de faire de l'agriculture de manière plus vertueuse, moins destructrice pour l'environnement, plus pratique pour les agriculteurs. Il n'est pas du tout exclu que ça puisse arriver. Mais toute la question, à mon avis, justement, quand on fait de la politique, toute la question est de savoir sur quoi on va porter un jugement. Et il me semble, c'est un avis personnel, hein, il me semble contre-productif de porter un jugement sur la technique et non sur ce qu'elle va pouvoir nous permettre de faire ou de ne pas faire.
Bref, posons les questions et la question de façon pertinente, hein, face à un problème aussi compliqué. D'abord, savoir poser la question.
Ah, je pense que ça s'impose.
Merci infiniment, Stéphane Fougard, donc auteur avec votre consoeur Stéphane Aurel de ce grand article que vous pouvez retrouver. Il est du 2 février, mais on le retrouve facilement. Ça s'appelle « Comment Monsanto mène sa guerre médiatique ». Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'épopée des OGM, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et rendez-vous sur Affaires Sensibles sur le site de France Inter pour vos commentaires et des compléments à toute l'émission. Merci, puisque nous sommes jeudi, à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Mora, Adrien Cara et Jean Bulot. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Boulet et Coy Nguyen. À la technique aujourd'hui, Arnaud Caillet.